Très bien, nous voulons ouvrir nos Bibles dans l'épître de Paul aux Romains. Nous continuons dans l'épître de Paul aux Romains et au chapitre 3. La semaine prochaine, puisque c'est le dimanche avant Pâques, nous allons plus nous concentrer sur la crucifixion de Christ, afin que le dimanche de Pâques, on puisse traiter la résurrection de Christ. Donc, mais là, on fait encore un chapitre dans Romains chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 19 jusqu'à la fin du chapitre. Donc, Romains 3, 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais, et je souligne ce « mais », c'est très important parce que c'est là où on fait la transition à une autre étape dans l'argument. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Donc nous avons vu toute une série de messages allant depuis le milieu du chapitre 1 et jusque là au verset 18. C'est toute une partie où l'apôtre Paul était en train d'essayer de convaincre chacun dans son cas, dans chacun dans sa situation, tous les hommes, que nous sommes pécheurs. Et que il n'y a pas un seul, même pas le juif, ni même pas celui qui a été circoncis, si celui qui a gardé la loi de Moïse, même pas lui n'est sauvé parce qu'il a gardé la loi. Et le païen qui n'a jamais entendu parler de la loi, lui aussi est pécheur, même s'il n'a jamais entendu parler. Et il dit, tous sont perdus. Et et après avoir montré par tous ces arguments, par tous ces raisonnements, que l'homme naturel est moralement coupable, et puis il a même démontré que personne ne peut être sauvé par ses œuvres, hein, c'est ça que nous voyons dans les versets 19 et 20. Et il dit toute bouche soit fermée, tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Et ça, c'est un fait. Et lorsque l'on reconnaît ce fait-là, alors là, on peut aller plus loin. Hein. C'est comme impossible de soigner un malade qui ne se voit pas malade. Mais une fois qu'il admet qu'il est malade, il fait confiance au médecin qui lui dit, écoute, c'est grave. Et alors, à ce moment-là, le médecin peut lui proposer quelque chose et il va écouter. Et alors, donc au verset 21, il commence par « mais », hein, une conjonction, mais très importante dans ce contexte. C'est un peu équivalent à ce que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 2. Je vais vous lire, il y a un autre « mais » là qui est un peu le même rôle, hein, qui met en opposition deux situations. Éphésiens chapitre 2, et je lis les versets 1 à 11, 1 à 10. Il dit, vous étiez morts, voilà, il parle du passé, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Comme les autres. Mais le verset 4 dit, mais Dieu. Il dit, voilà, la situation, ça allait comme ça, il n'y en a pas un qui était meilleur que l'autre. Il dit, mais Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est lorsque Dieu intervient dans la situation. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc il y a cette transition. Voilà ce que nous étions. Et nous étions comme eux. Mais, et ce qu'il a fait, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, ce n'est pas parce que nous avions su quelque chose que les autres n'ont pas su, ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose que les autres n'ont pas fait. C'est Dieu qui est intervenu. Mais Dieu. Et donc ici, dans ce Romains chapitre 3, verset 21, il dit « Mais maintenant !» Mais maintenant, il y a, oui, c'était la situation était « Mais maintenant !» Il y a une nouvelle situation, et je peux vous parler de cette nouvelle situation, et c'est, il y a de l'espérance dans cette situation. Ce qui pourrait nous étonner, c'est qu'il nous dit « Mais maintenant, sans la loi !» Alors, on est content, oh, sans la loi, c'est très bien, hein, parce que la loi... il est évident qu'il l'a dit aux Juifs, il a dit, mais vous voulez que les païens pratiquent la loi, mais vous-même, vous n'avez pas pu. Alors, merci, c'est sans la loi. Mais il dit, mais maintenant est manifestée la justice de Dieu. Tiens, nous, on aurait, si nous, on avait écrit cela, on aurait dit, mais maintenant est manifesté l'amour de Dieu. Parce que le mot justice, on n'aime pas trop, surtout quand il vient de nous dire qu'on est tous coupables, et après de nous dire, mais vous allez affaire à la justice. Vous savez, c'est jamais agréable quand on reçoit quelque chose d'un huissier. Parce que c'est quelque part, c'est la justice. Et puis, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de patience, il n'y a rien du tout. C'est toujours gênant. Mais il dit, mais maintenant, la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage les prophètes, la loi et les prophètes, il a dit c'est quelque chose dont on parle depuis l'Ancien Testament, c'est la continuité, c'est ça qui est extraordinaire avec la Bible, c'est pour ça que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament se trouvent dans la même couverture, parce qu'ils vont ensemble, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et il dit, il confirme, mais parle de cette justice de Dieu. Et nous avons toujours cette idée négative de la justice de Dieu, parce qu'on a cette impression que la justice de Dieu, elle n'est là que pour condamner, pour détruire, pour nous juger, alors que, en fait, il est en train de dire, mais la justice de Dieu est là en votre faveur, même si vous êtes des coupables. Et La justice de Dieu, et donc il dit, elle est conforme, ne paniquez pas, elle est conforme à ce que Moïse a enseigné, elle est conforme à ce que les prophètes ont enseigné, tout est bon. Donc voilà, et la grâce, la justice de Dieu est là en votre faveur. Et alors, bien sûr, il va le montrer, et on va essayer de voir cela. Vous savez, les versets 23 et 24... qui disent « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » C'est là l'encre de notre espérance. Hein. C'est « Oui, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, naturellement, mais aussi nous sommes justifiés et grâce à l'œuvre de Dieu. » Et donc, c'est une base de notre espérance et notre confiance. J'aimerais lire la traduction de Darby sur ce verset-là. Il dit, parce que dans notre traduction Segrand, il dit que nous sommes... tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, dans un sens qu'il y a une barrière qui nous empêche, hein, comme si il y avait un mur, être privé de quelque chose. Quand on est en train de se balader, puis on arrive, on trouve le mot privé, ça veut dire change de direction. Hein, c'est cette notion-là. Et il nous dit, vous êtes tous, nous sommes tous, nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu, comme si c'était interdit. Mais en fait, la notion elle ressort mieux dans la traduction Darby qui nous dit « Car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. » C'est-à-dire ne sont pas à la hauteur de la gloire de Dieu. Ils ne sont pas à la hauteur des attentes de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ferme l'accès, c'est seulement que nous, on n'arrive pas à la hauteur. Je prends une illustration. Deux hommes vont se présenter pour entrer dans la garde royale en Angleterre. La taille minimum exigée, c'est de 1,82 m, donc 6 pieds. Hein. Les deux hommes sont rejetés, et cela à cause de leur taille. Le premier, il faisait 5 pieds, 7 pouces, c'est-à-dire 1,70 m. Donc, ça ne passe pas. Mais il a pu être beau, fort, expérimenté, tout ce qu'il veut, mais une exigence, il n'est pas à la hauteur. Le second faisait 5 pieds, 11 pouces et demi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les pieds et les pouces, 5 pieds et 12 pouces, ça fait 6 pieds. Ça fait la même affaire. Lui, il lui manquait juste un petit peu. Il faisait 1,81 m au lieu de 1,82 m. Et il a été rejeté. C'est un peu ça l'idée que Dieu nous dit. Il dit tous ont péché et ils n'arrivent pas à la hauteur des exigences de Dieu. C'est tout. C'est pas que Dieu ferme la porte, mais c'est que la barre, elle est là et on n'y arrive pas. Et c'est pour ça qu'on passe. Le problème, ce n'est pas lui qui ne veut pas qu'on passe, c'est nous qui ne pouvons pas. Nous ne sommes pas à la hauteur. Et donc, ce verset nous dit donc qu'aucun homme n'atteint la barre, n'est pas à la hauteur de la barre de la gloire de Dieu. Et c'est possible qu'il y en ait certains qui soient plus près que d'autres. Hein. Bon, il y en a un qui était presque là et l'autre était un peu plus loin. Mais tant qu'on ne l'est pas, on ne passe pas. Hein, c'était une exigence éliminatoire. Et on n'est pas à la hauteur. Et nous avions besoin d'une intervention. Hein, quand on ne peut pas passer, ben, on a besoin de quelqu'un pour nous aider. Et c'est là où l'amour de Dieu intervient. Parce qu'il voit qu'on n'arrive pas, et bien alors là, il va concevoir un plan qui va nous permettre de passer quand même. C'est ça l'amour de Dieu. Hein, c'est comme ça qu'il faut le comprendre et le voir. Et en fait, son amour lui a donné l'envie d'intervenir et de nous aider. Alors, la grâce de Dieu intervient là, elle s'étend vers le pécheur, dans le sens que, quoi qu'il soit, bien qu'il soit vraiment moralement dépravé, incapable, eh bien, Dieu veut intervenir pour qu'on puisse passer et satisfaire les exigences du Dieu saint. Vous savez, quand vous allez à un magasin et vous achetez les fruits, et puis ils sont tous parfaits, ils sont tous beaux, il n'y en a aucun qui a une tache. Vous vous disiez, il y a eu un tri quelque part. Parce que jamais vu dans un jardin où tous les fruits étaient parfaits. Il y a eu un tri. Il y en a qui ne passent pas. Et puis il y a ceux qui passaient. Et vous savez, Dieu dans le ciel, parce que Dieu est saint, Dieu est parfait, eh bien il n'y a que ceux qui sont parfaits qui passent. Le problème c'est que, bon, le maraîcher ou celui qui a ses arbres fruitiers là, lui, heureusement pour lui, il y en a une majorité qui passe et donc il arrive à vivre de cela. Mais dans le cas de l'être humain, depuis la chute, eh bien il y a personne qui passe, on n'est pas à la hauteur. Et ça c'était un gros problème pour Dieu avant que ce soit un problème pour nous. Lui, il a pensé à cela et il a mis en place cela, et nous le verrons la semaine prochaine. Et il avait déjà, dès le début, il avait déjà prévu quelque chose. Vous savez, il y a une chose extraordinaire que, vous savez, Dieu, quand Adam et Ève ont péché, et donc le péché les a envahis, et a pris possession d'eux, et nous avons cette nature pécheresse en nous. Mais Dieu a fait une grâce, une grâce extraordinaire. C'est qu'on aurait pu se retrouver dans un état où incapable de penser à quoi que ce soit, ni à Dieu, ni de désirer Dieu, ni de quoi que ce soit. Ou même de comprendre ou d'avoir envie d'aller vers Dieu. Il aurait pu nous priver, ça aurait pu être. Mais Dieu, dans sa grâce, alors que nous sommes déchus, dépravés, comme on dit, mais il reste toujours cette capacité de l'être humain de se dire, mais je ne suis pas à la hauteur, il faudrait que j'y arrive. Et donc, ce qui démontre cela, c'est le fait que de toutes ces religions qu'on a dans le monde, de différentes cultures, chacune a une religion, et le but de ces religions, c'est d'aider la personne à devenir meilleure pour se rendre acceptable. C'est quelque chose qui est là, qui est inné dans l'être humain, il est encore conscient de cela. Bon, le problème, c'est que tous ces moyens ne sont pas suffisants, hein. Nous ne pouvons pas, hein, c'est comme celui qui est pris dans un bourbier, qui veut sortir de là et qui tire sur les bottes pour sortir de là. Ben, si, tant que c'est lui qui tire, il n'ira nulle part. Hein, ce n'est pas moi qui puisse me tirer d'une situation. Il faut que quelqu'un d'autre me tire de là. Et là, mais on peut prendre conscience de cela. Mais après, la grâce de Dieu continue à intervenir, dans le sens que, parce que nous sommes pécheurs, nous avons quand même une notion un peu corrompue des attentes de Dieu. Alors, les religions nous font croire, disent, écoute, si tu fais ça, d'un côté, c'est les sacrements, d'un autre côté, c'est des jeûnes et des prières, et puis d'un autre côté, c'est des pèlerinages, et pour d'un autre côté, et chacun dit, mais si tu fais ça, tu vas arriver. Le problème, c'est que le concept des exigences de Dieu est un peu corrompu, et ça ne marche pas. Et là, c'est là où la Bible nous parle du Saint-Esprit. Jésus dit à ses disciples dans la chambre haute, il leur dit, écoutez, je vous enverrai le Saint-Esprit, il nous dit dans Jean chapitre 16, et il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. C'est-à-dire, il viendra les aider à comprendre les exigences de Dieu. Et lorsque cette personne entendra le message de l'Évangile et elle comprendra son état, parce que l'Esprit de Dieu l'aide, et l'aide dans sa faiblesse, même dans la compréhension de ces sujets-là, eh bien, il se tournera vers Dieu. Et donc, il nous dit que nous avons besoin de... La première chose, c'est d'être... Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans les premiers chapitres, il traite ça. Il en a besoin de la conscience du péché. Une fois qu'on comprend qu'on est pécheur, et qu'on est pécheur au point qu'on ne peut plus sortir de là nous-mêmes, et qu'un voisin ne peut pas nous sortir de là non plus, parce que lui, il a le même problème, hein, eh bien, c'est là où on est prêt à nous tourner vers le Seigneur. Et... Donc il nous dit dans verset 20, il nous dit parce que il y a une certaine théologie qui circule comme quoi l'homme pécheur est incapable même d'avoir conscience de son état de péché. Et moi je pose la question, je dis mais si c'est vrai qu'il est dépravé à ce point où il n'est même pas capable de se rendre compte qu'il est pécheur, alors pourquoi est-ce que Dieu a donné la loi? Parce que justement, le but de la loi, il nous dit au verset 20, c'était pour qu'on puisse arriver à la connaissance du péché. Hein, donc, non, je dis la grâce de Dieu a permis, Dieu a permis à l'homme, au lieu d'être complètement... Hein, c'était la même grâce qui... Vous rappelez les détails de quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin. En fait, on croit que ce n'est pas gentil de les chasser du jardin. Mais en fait, il les a rendus service, c'était une grâce de les chasser. Parce que sinon, ils auraient mangé de l'arbre de la vie et ils seraient restés éternellement dans le péché. Et Dieu les a chassés pour pouvoir les sauver et les faire revenir dans un autre contexte. Et c'est une grâce de Dieu. Parfois, on ne comprend pas la grâce de Dieu, mais Dieu cherche notre bien, toujours notre bien. Et donc, Dieu, dans sa grâce... Il nous aide avec cette conscience du péché, on le reconnaît, et après Dieu dans sa grâce, il nous offre un moyen de salut qui s'obtient par la foi. Et c'est un plan qui est selon la justice de Dieu. Vous savez, les religions, elles essayent de nous faire espérer que lorsqu'on se présentera devant Dieu, eh bien, il va un peu regarder de l'autre côté, puis il va dire « vas-y, passe ». Ou « bon, c'est pas grave, je sais que, bon, vas-y, passe ». Vous savez, si on commence à faire ça, eh bien, on aura des drôles de fruits hein, chez le marchand. S'il commence à fermer les yeux, laisser passer du n'importe quoi, hein, on est très exigeant avec ce qu'on mange, et on veut même savoir comment ça a été planté, si c'était quel genre d'engrais, on veut tout savoir avant de le manger. Et après, on veut que Dieu, dans le ciel, eh bien, il laisse passer un peu n'importe qui. Même les meilleurs des hommes, si on les laisse passer, eh ben ça ressemblera à la vie des meilleurs des hommes. Et ce ne sera pas le ciel. Ce sera même pas les beaux quartiers du monde. Parce que les beaux quartiers ne sont pas toujours ce qu'on veut. Hein. Mais il dit, mais ça, ce qu'il présente, c'est selon la justice. Vous savez, pour donner l'idée... Vous savez, pour sortir de prison, il y a deux manières de sortir de prison. Il y a une manière, c'est que le juge dit, vous pouvez sortir, vous êtes libre. Alors là, vous sortez par la grande porte et vous savez que vous ne risquez rien, on ne vous remettra plus en prison pour cette chose-là. Il y a une autre manière de sortir de prison, c'est d'échapper. Mais celui-là, qui réussit à s'échapper tout seul, sans que la justice intervienne, et qui arrive à fuir, eh bien lui, il vit avec la peur d'être rattrapé et d'être remis en prison, et puis cette fois-ci, ce sera encore plus long. Vous savez, quand c'est la justice qui intervient, eh bien, ça devient sûr. Mais quand c'est par les moyens, d'autres moyens, eh bien, nous rencontrons des problèmes. Il vaut mieux sortir de prison par une décision de justice que de sortir par un moyen rusé. Hélicoptère, il y a toutes sortes de moyens, il y en a qui sont vraiment doués pour cela. Celui qui sort, qui essaye de rentrer au ciel par ses propres moyens, passera pas. Je vais pas prendre le temps, je vais juste vous parler du festin de noces de Matthieu 22. Il nous parle de cet homme qui, tout d'un coup, le roi, il arrive dans la grande salle de noces et puis il trouve un gars qui n'est pas habillé avec les habits qu'on a distribués à l'entrée. Et il le voit habillé autrement. Il lui dit, mais par où t'es rentré, toi? Parce qu'il sait que tous ceux qui sont passés par la porte, eh ben, ils ont reçu un habit. Parce que vous lisez la parabole, il a pris tous les gens de n'importe quoi, tous les malades, n'importe qui, les pauvres, il a pris tout le monde, et il leur a donné un habit pour que dans la salle, eh bien, tous soient présentables. Mais il y en avait un qui n'était pas comme ça. Il dit, par où t'es rentré, toi? Et l'autre, il ne savait pas trop quoi dire parce que c'est évident, il passait par ailleurs. Et le roi dit, dehors. Vous savez, on ne peut pas, il ne faut pas prévoir rentrer au ciel par un autre moyen que par la porte désignée par Dieu, qui est Jésus-Christ. Je vous donne un petit secret. C'est par cette porte-là, et là, on reçoit un habit. On est revêtu de la justice de Christ. Et ça, Dieu, il trouve ça très beau. Et on passe. Pour vous donner une idée de la justice, comment les choses se font quand ça s'est fait selon les règles. Supposons qu'une personne ait accumulé une dette qu'elle ne peut pas rembourser dans un grand magasin. Vous savez, c'est facile à faire, hein. Et finalement, le magasin, il dit, écoutez, madame, je ne sais pas quoi faire. Écoutez, on laisse tomber. On n'en parle plus. C'est un pardon arbitraire. Mais vous savez, cette dame, elle va toujours être gênée de revenir dans ce magasin parce que, bon... Ouais, ils savent, j'ai mal payé, j'ai pas payé la dernière fois, je sais pas si je peux faire un crédit, je sais pas, on est gêné. Pourquoi? Parce que ça a été réglé un peu n'importe comment. Ouais, on a décidé de rien dire. Et vous savez, c'est le pardon comme ça, le pardon où on dit rien, laisse passer. Ça marche pas même chez nous. Vous savez, entre époux et épouse. Des fois, il y a des choses, et puis, il y a un truc qui gêne et tout ça, mais on dit, bon, laisse tomber. Puis, laisse tomber. Et puis, arrive un jour, pour un truc de rien du tout, c'est l'explosion. Et l'autre partenaire, il dit, wow, d'où ça vient? Oui, le truc, d'où ça vient, c'est parce que ça a accumulé. On a dit, on dit rien, on laisse passer. Mais la réalité, c'est que ça a accumulé. Ce genre de pardon où on dit rien puis on laisse tomber, ça ne règle rien. Ça remet à plus tard et après il y a l'explosion. Tandis que lorsque, c'est un collègue de travail, ça arrive la même chose avec un collègue de travail, avec un voisin, tout ça. Mais lorsque on va le voir, on dit, écoute, voilà ce que j'ai fait, je te demande pardon. Quand il y a pardon, je te demande pardon, je te pardonne, après là, ça accumule pas. Ça s'arrête là. Ça continue pas. Vous savez, si Dieu nous faisait dire, bon, je dis rien. Ouais, nous, vous savez, surtout quand il dit rien. Connaissez les élèves à l'école. Quand un professeur ou un instituteur a la réputation, il dira rien. Eh ben, vous savez, les choses ne s'arrangent pas. On en profite. Et tandis que si on le traite, et puis, mais on obtient le pardon, après, c'est réglé une fois pour toutes. Et avec Dieu, c'est pareil. On veut qu'au ciel, ça se passe n'importe comment, et sur terre, il faut de l'ordre. Tandis, cette femme, le magasin, lui dit, remet la chose, mais bon, elle restera... Il y aura toujours une gêne par rapport à des achats futurs dans ce magasin. Parce que la dette n'a jamais été vraiment réglée. Elle dit, ouais, ben, peut-être un jour, ils vont se souvenir et puis ils vont me la remettre. Mais supposons que le magasin dit, ben, on va envoyer la chose en justice. Bon, c'est pas une bonne nouvelle pour la dame. Mais pendant qu'elle attend que le juge la convoque, entre-temps, le fils du propriétaire du magasin devient amoureux d'elle, et il la marie. Dis-toi, tu vas chercher loin, hein, tes histoires. Ben écoutez, dès qu'on parle d'amour et de mariage, ça intéresse les gens. Hein. Et alors, elle se marie au fils du propriétaire du magasin. Quand on se marie, vous savez, on prend la dame et on prend tout ce qui va avec. Hein. Les jeunes, là, je vous rappelle ça. Hein. Et c'est-à-dire les factures viennent avec. Et les dettes aussi. Mais lui, il a les moyens de régler ça. Et il règle la chose, c'est fait. Quand le juge convoque, elle se présente, il dit, madame, vous avez une dette qu'il faut régler? Il dit, pas coupable. C'est réglé. Il dit comment? Ben, c'est monsieur, il a réglé ça. Ben, le juge, il ne peut rien dire. Et devant la justice, elle circule, elle n'a plus peur. Vous savez la différence entre... on excuse la chose, on laisse tomber, on laisse courir, tout ce genre de solution, ça ne règle rien du tout. C'est qu'on ça remet à plus tard. En plus gros. Tandis que la justice, quand elle tranche, après, c'est terminé. Et Dieu a dit, moi, je veux faire avec vous selon la justice. La justice, je veux qu'on règle la chose, comme ça, on n'a plus à revenir. C'est dans notre intérêt. Merci, c'est une grâce de Dieu qui veut agir avec nous selon la justice. Donc, Dieu propose de nous justifier et il nous propose une solution et qui ne pourra plus jamais être remise en question. Là, l'affaire sera réglée parce que quand il parle de justification. Justifier, qu'est-ce que c'est ? Être justifié, c'est pas être déclaré juste. Justifier, c'est-à-dire justifier, c'est pas être déclaré innocent, c'est pas être dire que il a plus de péché. Non, être justifié, ça veut dire que il a péché, mais maintenant on le considère comme n'ayant pas péché. C'est un acte juridique de Dieu par lequel il déclare le pécheur repentant juste en Christ, comme la dame de tout à l'heure, hein, c'est marié au fils. Vous savez, c'est pas aller chercher loin cette histoire, parce que c'est exactement ce que Christ a fait. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Et il la marie. Et il a tout pris sur lui. Toutes les dettes de l'épouse, il a pris sur lui. Et il avait les moyens d'assumer ses dettes. Et donc, elle est libre. C'est exactement ce que nous avons. Hein. Mon histoire n'est pas si farfelue que ça. Et donc, Dieu, sur la base de l'œuvre accomplie de Christ à la croix, eh bien, il déclare, il ne le rend pas juste, il le déclare juste. Il ne déclare pas innocent, parce que ça serait de l'injustice, et c'est faire semblant que ça examine. Non, non. Il a été coupable, là, mais moi je le déclare juste, parce que c'est réglé. Et Dieu nous a fait, il ne nous a pas fait payer pour cette faveur imméritée. Hein. Nous n'avons pas les moyens, c'est lui, c'est quelque chose qu'il nous propose, et il n'y a rien à payer. Vous savez, c'est un peu comme l'enfant qui, un enfant pauvre qui est là devant la vitrine de la boulangerie et puis il a les yeux fixés sur un croissant. Ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé un croissant et ça. Il est là et le boulanger, à travers de l'autre côté, il voit ce gamin qui est en train de regarder et puis il comprend très vite le regard et il est touché dans le cœur. Et donc il prend un croissant de son comptoir, il sort et donne à l'enfant, il dit tiens. Et l'enfant, il va fouiller dans sa poche, il cherche deux, trois petites pièces, quelques centimes, et puis il dit monsieur, je peux vous payer. Le boulanger, il dit jeune homme, tu n'as pas de quoi payer, mais moi j'ai de quoi te l'offrir. Mange-le. Ben c'est exactement ce que Dieu nous a fait. Il dit, on présente, dit Dieu, mais je vais essayer de faire des pèlerinages, je vais essayer d'être gentil, je vais aller à l'église tous les dimanches, je vais être gentil avec ma femme, je ne vais pas la crier dessus. Et je vais faire... Il dit, non, écoute, tes petites pièces-là, ça ne suffit pas. Hein. Il dit, mais je t'offre le pardon. Selon la justice, parce que c'est moi qui paye. Et j'ai les moyens de l'offrir. Et en fait, il a déjà offert, pour ce qui nous concerne, il a déjà offert, Christ est déjà mort sur la croix, et il a payé la dette. Il dit, c'est déjà payé. Hein, c'est le boulanger qui dit, gamin, il a dit, écoute, le meunier a déjà été payé, le pâtissier, il a déjà été payé, tout le monde est payé, hein, que tu peux manger ça, ça y est, c'est déjà, hein, c'est pas, y a rien à payer. Et vas-y, jouis-en. Vous savez, c'est là où on arrive au verset 24 de ce passage, Romains 3, 24, il dit « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. » Gratuitement justifiés. En fait, le mot grec, nous, on a toujours cette idée gratuitement, ça veut dire c'est cadeau. Non, gratuitement, ça veut dire que c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui a payé. Hein? Et ce mot grec qui est traduit ici gratuitement, en fait, c'est le même mot qu'on trouve dans Jean 15, 25, qui est traduit sans cause. Vous n'aviez aucune bonne raison à avancer pour que Dieu le fasse, mais il l'a fait. C'est ça que veut dire, il vous dit gratuitement justifié. Vous n'aviez rien, vous ne pouviez pas lui donner une bonne raison pour le faire, et il l'a fait quand même. Il l'a fait de la générosité de son cœur. C'est totalement une grâce provenant du cœur de Dieu. Et la grâce de Dieu consiste à donner aux pécheurs repentants ce qu'ils ne pouvaient jamais espérer, mériter, oser demander. Et ce pardon, ben Dieu l'a acquis lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a payé la dette. Jésus a pu dire, hein, c'est les dernières paroles, tout est accompli. C'est-à-dire, tout est accompli, ça veut dire que c'est payé. Hein. C'était le mot télétestai. Qui était utilisé, c'est le mot que nous, l'équivalent dans notre culture, c'est lorsque sur une facture, tac, payé. On aime bien hein, les factures où il y a le tampon payé. C'est, en fait, c'est ça que Jésus, c'est payé. Hein, et c'est payé une fois pour toutes. Et l'apôtre Pierre, il dira... sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Il dit, on a été rachetés. C'était un acte légal, et qui était satisfaisant selon la justice de Dieu. La justice, l'exigence de Dieu était juste et la solution est juste. Elle est à la hauteur. Et vous savez ce qui est beau avec cela, et on parlera de ce rachat la prochaine fois, hein, ça m'a fait penser à Il y a quelques années, il y avait des problèmes entre le sud du Soudan et le nord du Soudan. Le sud du Soudan qui était chrétien, le nord du Soudan qui était musulman. Et il y avait des razzias qui se faisaient, et puis on allait prendre des gens du sud, et puis on les mettait en esclavage. Et donc il y a eu des associations qui ont rassemblé des fonds et qui ont été acheter ces gens dans le nord, et puis qui les ont libérés dans le sud, leur ont rendu leur liberté. Et ils appelaient ça le rachat. C'est la rédemption, on en parlera plus la prochaine fois. Mais c'est un acte juridique, c'est réglé, on ne peut plus revenir, c'est fait. Et c'était un acte juridique qui ne pourra plus jamais être mis en cause. Parce que c'est selon la justice. Donc ne cherchons pas, ne courons pas après des solutions où on passe sous le grillage, où on passe par-dessus la barrière. Où on passe... Non, non, non. Je veux traiter la chose avec Dieu, directement. Je veux lui parler, je lui dis, voilà mon problème. Et lui dit, écoute, moi j'ai juste ce qu'il te faut. J'ai la solution pour toi. Et finalement, mon fils est déjà mort sur la croix, il a tout payé. Écoute, moi, parce que c'est payé, eh bien moi, je peux t'offrir le passage. Et tu peux rentrer dans la gloire. Je te déclare juste. Parce que lui s'est chargé de ton péché. Et c'est incroyable. Il dit, ah, peut-être c'est incroyable, mais c'est divin. Hein? Dieu est capable de le faire. Il a les moyens de le faire. Il s'est donné les moyens de le faire. Et il veut le faire. Il suffit de passer par la porte pour recevoir la justice, d'être revêtu de la justice de Christ. Et là, vous savez, vous n'avez pas peur. Hein, un jour, vous pouvez entrer au ciel et vous ne pouvez pas dire, est-ce qu'on va me jeter hein? Vous n'êtes pas comme les gens qui traversent la frontière verte hein, pour rentrer en France. Et puis ils sont constamment... Non. Vous êtes passé selon la loi, selon la justice, vous n'avez rien à craindre. Et c'est ça le plan du salut que Dieu a préparé pour nous. Et donc, n'essayons pas de... ne courons pas vers autre chose. C'est pour ça qu'au début de l'évangile, l'apôtre Paul a dit « Je n'ai point honte de l'évangile. » Parce que c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est une solution, il a dit, c'est quelque chose qui est valable pour le juif et le grec, pour tous, sans faire de distinction. Et c'est extraordinaire, ce plan du salut de Dieu, qui ne demande rien de l'homme, et qui tout vient de Dieu. Et donc, vous savez que c'est bien fait, et que c'est suffisant, parce que c'est lui qui l'a fait. Et donc, ce matin, soit nous allons... être reconnaissant et dire « Dieu, c'est extraordinaire ce que tu as fait, c'est tellement bien fait. » Ou bien vous dites « Mais c'est ça que je cherche, c'est ça que je voudrais pour moi. » Et Dieu, écoute, j'ai du mal, c'est vrai que j'ai du mal à reconnaître mes fautes, et mon péché, et mon état devant toi. J'aimerais bien faire valoir quelque chose chez moi, dans ma vie, mais je comprends que tout ça, ça passe pas. C'est pas la hauteur, la barre, elle est déjà fixée et je passe pas. Et j'ai besoin de ton assistance, j'ai besoin de ton aide. Je voudrais que tu interviennes dans ma vie et que tu m'apportes quelque chose, mais qui soit selon la justice de Dieu, pour que ça soit reconnu dans le ciel. Et vous savez, il va dire, écoute, je sais, tu n'as pas les moyens de l'accéder, mais moi j'ai les moyens de l'offrir. Et c'est en Jésus-Christ. Prenons quelques instants pour prier les sentiments qui sont dans votre cœur et dites-le à Dieu ce que vous avez à lui dire et puis ensuite je prierai.